Si vous allez à Vevey, depuis la route du lac, après Lausanne, obligatoirement, vous passez par la conversion. Il en est de même avec Jésus-Christ. Le chemin qui l'y conduit passe obligatoirement par la conversion. L'avant fait entrer dans cette espérance de fin de souffrance. Il est une marche vers la paix, la sérénité, vers la lumière, vers Jésus qui vient sauver le monde. L'avant nous invite à l'optimisme. Et on sent cette fin d'année 2024 plus troublée que jamais par tous les conflits qu'il y a. Ce message libérateur mérite d'être prêché, divulgué auprès de tous ceux que nous côtoyons. Je vous invite à trois lectures, une dans Ésaïe 40, l'autre psaume 84, la troisième dans Marc 1 à 8, et je vais demander à Rosalie de faire les lectures.
On commence donc par Ésaïe 40, 1 à 5 et 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que cette période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Monte sur une montagne, sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Psaume 84, 5 à 9. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Et on finit par Marc 1, 1 à 8. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophéties. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ce sentier droit. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Il se faisait baptiser pour lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi, vient celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. »
Prions. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui fait autorité. Qu'elle descende dans nos cœurs, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous rafraîchisse. Amen. Nous avons lu une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Le désert s'enville, pourtant c'est là que Dieu parle. C'est là qu'il a parlé à son peuple. Dans le désert de notre vie, ce lieu aride peut devenir aussi un lieu où Dieu parle. Dans ce passage d'Ésaïe, nous avons cette double annonce, celle de la venue d'un berger qui prendra soin de son troupeau et celle de sa seconde venue en gloire. Ce Jésus annoncé par Jean vient aplanir notre sentier. Il vient apporter une transformation dans nos vies. À ce moment-là, toute montagne sera abaissée, nous dit le texte, les collines seront changées en plaines. La paix à laquelle tout le monde aspire, nous pouvons la connaître dans notre cœur par la conversion. L'Avent nous est suggéré comme une démarche de conversion et de préparation de la venue du Seigneur et de son retour. Chacun d'entre nous est invité dans le désert de son propre cœur, le chemin du Seigneur et accueillir la puissance du salut apportée par Jésus-Christ. Conversion, se convertir, voilà un mot qui vient de plus en plus sensible à utiliser. Même notre gouvernement cantonal s'y met et se met à édicter des lois pour interdire la conversion comme moyen de pression psychologique pour forcer, entre guillemets, les gens à changer de comportement. Alors c'est vrai que toute pression exercée sur quelqu'un pour lui faire changer de comportement est à bannir. Nous sommes là pour inviter les gens à la conversion pour leur salut, aussi pour leur bien temporel, non pas dans un but de les récupérer pour en faire, pour les faire, les convaincre de faire partie d'un groupe. Dans le cadre de la mission contre la lèpre, j'ai eu souvent à argumenter sur ce point-là, surtout lorsque je faisais appel à des fonds publics. On voulait être sûr que notre action médicale n'était pas un prétexte pour amener les gens à la conversion. Mais il faut poser le problème différemment. Si nous avons un engagement social en tant que chrétiens, c'est justement le résultat de notre conversion qui nous pousse à agir comme le Christ nous l'a montré, partager son amour avec autrui, eh bien nous conduit à ne pas être indifférent à ce que la personne vit dans son quotidien, à s'adresser à ses besoins physiques, psychiques, émotionnels, familiales ou même économiques. On utilise volontiers le mot holistique pour parler à l'ensemble des besoins de la personne. J'en reviens à la mission contre la lèpre. Au plan international, comme toute organisation, a une constitution, des statuts. Et lorsque nous devons signer des contrats avec des partenaires, notamment avec des gouvernements, eh bien, nous devons leur fournir une copie de nos statuts. Ceux-ci commencent de la manière suivante. Au nom de Jésus-Christ, la mission s'engage à apporter son soutien aux personnes affectées par la lèpre, etc. Alors, je reviens de l'Inde il y a 15 jours, où la mission vient de célébrer son 150e anniversaire, pays dans lequel la mission a débuté ses activités. À plusieurs reprises, le gouvernement indien a essayé de faire pression auprès de la mission pour que l'on supprime juste ce petit mot Jésus-Christ de notre Constitution. Jamais on n'a accepté de transiger là-dessus. Vous ne pouvez pas nous forcer à renoncer à ce qui est le moteur de notre engagement. Sans ce nom de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de mission du tout. Au début, en 1874, il n'existe absolument aucun remède pour lutter contre la lèpre. Et le fondateur, Wellesley Bailey, lors d'une visite dans ce pays, a été tellement bouleversé en rencontrant des lépreux qu'il s'est dit « mais il faut que je fasse quelque chose ». Et que pouvait-il faire sinon de partager sa compassion avec ces gens, de les toucher, de s'intéresser à soigner leurs escarres ou tous les problèmes physiques qu'ils pouvaient avoir, mais surtout en leur montrant qu'ils n'étaient pas exclus, mais qu'il y avait quelqu'un de plus grand qui les aime. Et cette découverte de se savoir aimé, alors que l'on est rejeté, que l'on n'est plus considéré, que l'on se déprécie, que l'on est déprécié, peut apporter une véritable révolution dans notre vie. Le psaume 68 nous dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. » Qu'est-ce que nous voulons de mieux que ça? Aurais-je honte de ma nouvelle identité qui fait de moi un bien-aimé de Dieu? Romains 8, 17 nous dit « Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Si nous réalisons quelque peu ce statut que nous avons en Christ, comment ne pas apporter les changements qui s'imposent dans notre vie? L'apôtre Paul met en garde les Romains contre l'endurcissement de leur cœur, en refusant de se repentir. Méprises-tu la richesse de sa bonté, dit-il, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas la bonté de Dieu qui te pousse à changer d'attitude? La conversion, elle impacte toute notre vie. Elle produit des changements de paradigme. Et Jésus lui-même cite cette parole. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus appelle au changement d'attitude. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, dit également « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». En son temps, certains s'en souviendront peut-être, j'avais apporté un message ayant pour titre « Changement d'altitude » en parlant du ballon de Bertrand Piccard et l'expérience qu'il avait faite pour montrer que des fois, il ne fallait pas s'entêter à vouloir poursuivre une route, mais à pouvoir modifier sa trajectoire pour trouver les courants qui vont nous amener à bon port. Alors là, je vous parle de changer d'attitude cette fois. Et les deux termes se complètent bien. Savoir prendre de la hauteur pour changer totalement de comportement, comme changer d'attitude. Je viens de lire cette semaine un commentaire sur un billet journalier intitulé « La conversion écologique ». Voilà aussi un terme qui est d'actualité. En tout cas, l'écologie, peut-être pas la conversion. Il est dit « L'économie des sociétés occidentales basée sur la croissance » conduit à la surproduction, à l'épuisement des ressources naturelles. Elle engendre gaspillage, pollution, etc. Certains proposent une conversion écologique. Ça commence par la prise de conscience de la fragilité de notre planète et du caractère épuisable de ses ressources. Au plan spirituel, il en est de même. Nous devons prendre conscience de l'urgence d'un changement intérieur. Ça commence par la repentance, c'est-à-dire de reconnaître nos torts envers Dieu. Ensuite, l'Esprit Saint viendra consoler notre cœur, le transformer et nous accorder la joie libératrice du pardon. L'apôtre Pierre, dans son discours, dans Actes 3, 19, adressé au peuple réuni devant la porte du temple appelé la Belle, après avoir guéri un boiteux, dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » L'apôtre Paul, encouragé par Agrippa, plaide sa cause. Il donne son témoignage personnel, parle de sa conversion et des paroles que le Christ lui a adressées. « Je t'envoie pour ouvrir les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. » J'ai annoncé qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir conforme ou qui confirme leur changement d'attitude. Vous voyez que le mot « conversion » et son corollaire « changer d'attitude » a encore toute sa pertinence aujourd'hui. C'est ce message que nous voulons continuer de diffuser autour de nous, afin que la lumière du Christ vienne apporter réconfort, espérance et paix en tous ceux qui l'accueillent dans leur cœur. Fin du message que j'ai préparé. C'est ce que j'ai écrit là. Je vais poursuivre un bout de plus. Parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, en pensant à ce que j'allais vous dire, en repassant tout ça dans ma tête, j'ai pensé à un témoignage personnel que nous avons vécu, Ruth et moi, l'année passée. Alors, le matin, au petit déjeuner, je lui ai dit, Ruth, est-ce que tu penses que je devrais leur partager l'expérience que nous avons faite au Canada? Elle me dit, mais tu fais comme tu la sens. Si tu juges bien de le faire, vas-y. Alors, c'est jeudi à aujourd'hui, j'y ai pensé. Et je me suis dit, mais ça accorde tellement bien avec le thème que j'ai essayé de développer là sur la conversion, que je vais vous partager ce témoignage que j'ai partagé avec peu de personnes. Dans le cadre de la famille, et une ou deux personnes ici, je vois Michel avec lui, je lui en avais parlé il y a bien des mois. En septembre, l'année passée, Ruth et moi décidons d'aller au Canada. Ça faisait des années que nous n'y étions pas retournés à cause des situations aussi difficiles. Et nous décidons d'aller visiter notre fils, Michael, qui fêtait ses 50 ans. Michael, après une relation difficile pendant des années, s'est divorcé et s'est remarié il y a 4 ans, avec une femme charmante, qu'il aime, qui lui témoigne d'affection. C'est vraiment un autre homme. On le sent heureux, on le sent bien. Il habite dans la maison de sa femme. À côté de la maison de sa femme, il y a celle de ses beaux-parents. Les propriétés se touchent. Le problème, c'est que depuis des années, avant que Michael entre en relation avec cette dame, il y a eu une rupture totale de relation. Les parents ne parlaient, le papa surtout, ne parlait plus du tout à sa fille. il y a eu un problème dans les relations qui font que rupture totale de communication. Une affaire vraiment triste qui nous posait, nous, des questions, en disant, mais comment c'est possible? Un papa, une maman, la maman, par solidarité vis-à-vis de son mari, ne pouvait pas faire autrement, rompre les ponts avec leur fille unique. Quelques semaines, peut-être 15 jours avant qu'on arrive au Canada, la grand-maman d'Amélie est hospitalisée. Puis, après peu de jours de soins pas très adéquats, meurt. Et à cause de ces circonstances, la fille a dû rentrer de nouveau en contact avec ses parents pour tout d'abord les visites de cette grand-maman, et puis ensuite pour organiser une réception à la maison des parents qui réunissait la famille. Il n'y a pas eu de service funèbre, rien du tout. Et cette réception a eu lieu quand nous étions là-bas, au Canada. La première semaine qu'on a passé là-bas, on n'a jamais vu ni le père ni la mère. Je pense qu'ils se veillaient bien de ne pas sortir en même temps que nous de leur maison, pas qu'on se croise. On ne s'est jamais vu. Et voilà que nous, on a dit à Michael, pour ton anniversaire, avec ton épouse, on aimerait bien partager un bon repas. Choisis un restaurant, un petit gastro, pas un fast-food comme il y en a beaucoup dans ce pays. On aimerait quelque chose qui soit un peu plus convivial. Bon. Le jour avant le repas, au restaurant, Michael nous dit, écoutez, j'ai inviter mes beaux-parents à venir avec nous. Bon, ben, placé devant l'évidence, c'est sûr qu'on pouvait difficilement faire autre chose que d'accepter, même si c'est pas ce qu'on avait prévu au départ. Et il nous dit, mais les parents aimeraient bien vous rencontrer quand même pour vous connaître avant. Alors ce soir, après le repas, je les ai invités à venir prendre un café. Mais il marchait un peu sur des œufs, Michael. Il faut faire attention, il y a peut-être des choses qu'il ne faudra pas dire et tout ça. Je pense qu'il avait oublié comment était sa maman, d'essayer de vouloir la contrôler. Alors Ruth lui a dit, Michael, on va être comme on est, on va se laisser guider, puis on verra bien. Les parents arrivent. On fait des présentations, des gens charmants. Et puis, Ruth, d'entrée, leur dit « Ah, demain, on va se payer un gastro. » Et le père, grand éclat de rire, c'est une expression qu'il ne connaissait pas, sinon, avec des problèmes intestinaux, il se dit « Mais tiens, est-ce que tous ensemble, on va aller se payer une gastro ?» Ça a nécessité une petite mise au point sur l'interprétation du terme. Ça a d'entrée dégelé l'atmosphère. Ses parents se sont sentis tout à fait à l'aise. Ce qui fait qu'on a passé un premier contact sympa, sans appréhension. Et ils sont repartis tout contents chez eux. Le lendemain, on se retrouve au restaurant. Et contre toute attente, parce que ce n'est pas du tout dans leurs habitudes, Amélie, ma belle-fille, avant le repas, elle me dit « Eric, est-ce que tu voudrais prier ?» Bon, je m'exécute, je prie. Ensuite, entre le repas et le dessert, alors là, je prends la parole, et je dis aux parents « Vous m'excuserez, mais nous avons pour habitude chez nous, chaque fois qu'il y a un anniversaire d'un enfant ou d'un petit enfant, que je leur adresse des paroles. » Michael y a toujours échappé, puis ça fait 23 ans qu'il est au Canada. L'occasion nous est donnée maintenant de pouvoir le faire, alors j'aimerais lui adresser quelques mots. Et je commence par la signification du mot de Michael. Je dis, Michael, ça veut dire « qui est semblable à Dieu ?» avec la réponse évidente qui en découle, personne. Et je parle de ce Dieu d'amour que l'on a et de tous les talents qu'il nous donne, dont on n'a pas à s'enorgueillir, sinon à les mettre au profit des autres. Et Michaël est très doué au niveau manuel, très ingénieux. Tous des dons que je n'ai pas, donc ce n'est pas de moi que je peux en tirer gloriole. Alors je lui dis à Michaël, à l'assistance, vous voyez, Michaël, dans son jardin, il a construit une petite maison qui est la réplique de la maison dans laquelle il habite, de sa femme. Et c'est une cage à lapins. Mais c'est vraiment une réplique. J'avais une photo, on n'a pas réussi à l'ouvrir, qui vous aurait montré cette maison. Je lui ai dit, ben vous voyez, il a mis ses talents pour exprimer à sa femme tout son amour et lui dire, sous cette forme-là, qu'il était bien chez elle. Et puis ensuite, j'ai parlé des relations, qui étaient importantes de garder des bonnes relations. Je n'ai pas terminé mon speech que le papa intervient. Il dit, mais c'est incroyable, je suis complètement bouleversé d'entendre ce que vous dites. C'est la première fois de ma vie que j'entends des paroles comme ça. Ça me touche profondément. On finit notre repas. Sur le parking, avant de partir, il me rappelle combien il a été ému par ça. Le lendemain soir, les parents décident de revenir de nouveau nous voir pour partager une tasse de café après le repas, parce qu'ils n'étaient pas encore au stade de s'inviter pour plus qu'une tasse de café. Les parents arrivent. Le papa, à peine assis à table, il me dit encore, mais combien ça l'a bouleversé ce que je lui ai dit. Il s'assied et voilà qu'il s'ouvre et commence à se raconter, à tout dire, ce qui s'est passé dans sa vie, les nœuds qu'il avait, les problèmes. Et sa fille qui était à côté commence à avoir les larmes aux yeux, la maman pleurait aussi. La fille, elle entendait des choses que jamais de sa vie elle avait entendues de la part de son papa. Elle était profondément bouleversée. Et cet homme s'est raconté. Et bien sûr, une fois qu'il a eu fini de s'ouvrir, il m'ouvrait la porte toute grande pour enchaîner et parler sur l'importance du pardon. Qu'il n'y a pas de réconciliation possible sans pardon. Et que le pardon, il avait aussi un effet bénéfique pour celui qui l'accorde comme pour celui qui le reçoit. C'était très important de pouvoir le vivre. On partait le surlendemain de cette soirée, et dès lors, les relations complètement rétablies. Ils s'invitent souvent, Michaël invite ses beaux-parents à venir chez eux, ils prennent des repas ensemble. Michaël a acheté un bout de forêt avec une cabane et une cabane à sucre. Il invite ses beaux-parents pour la journée. Il passe des temps super. La relation complètement rétablie. Je dois dire que j'étais profondément ému aussi de vivre cette expérience. Parce que pour moi, c'était la première fois aussi que je vivais quelque chose d'aussi intense, et de voir comment quelqu'un, mais d'une minute à l'autre, peut complètement changer d'attitude. Une conversion radicale. C'était impressionnant d'arriver là en tant qu'étranger, quelqu'un que je n'ai jamais vu, qu'on ne connaît pas, et puis de vivre cette expérience, c'était assez bouleversant. Et si je vous parle de ça, en conclusion de ce message, c'est pour vous encourager, encourager tous ceux qui vivent des relations conflictuelles ou difficiles. Comme quoi, on peut toujours s'attendre à l'impossible avec Dieu. Et Dieu est toujours là pour nous surprendre d'une manière inattendue. Amen.